Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Bienvenue dans le cadre de notre émission Vibration FM+. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Daniel Alexandre qui va nous parler des migrants et des associations pour lesquelles il travaille. Daniel Alexandre, pouvez-vous nous présenter donc les associations avec lesquelles vous travaillez?
Oui, bonjour. Alors, je travaille dans deux associations à Montpellier.
Oui.
La première, c'est l'association familiale de l'entraide protestante, qui s'occupe du diaconat de l'Église protestante unie de Montpellier, qui regroupe des chrétiens, mais pas seulement, et puis des chrétiens d'un peu plusieurs dénominations aussi. Et dans ce cadre, je siège aussi au conseil d'administration de GAM, qui est un groupement d'associations opérateurs des politiques publiques. On expliquera un peu plus tard ce que ça signifie, opérateur des politiques publiques. Et en fait, ça, c'est un ancien centre social protestant. Donc, pour des raisons historiques, l'association familiale d'entraide a deux sièges au conseil d'administration de GAM, et j'occupe un de ces deux sièges. Et je suis administrateur délégué pour tout ce qui concerne l'accueil des réfugiés, des migrants, dans la région Languedoc-Roussillon, du fait que GAM est chargé par l'État de l'accueil de ces migrants.
D'accord. Et alors, comment est-ce qu'ils arrivent, les migrants, et qui sont-ils, hein? C'est intéressant de savoir, parce que quand on ne connaît pas, on ne sait pas comment ça fonctionne, comment ça se passe, ils arrivent comment?
Alors, c'est très varié. Là, vous entendez parler en ce moment de drames qui se produisent en Méditerranée, au large de la Libye. C'est pas forcément ces personnes-là qui sont venues par l'Italie, qui donc viennent d'Afrique, qu'on voit arriver le plus à Montpellier. En fait, souvent, les différents pays d'origine ont tendance, pour des raisons tout à fait normales, naturelles, à se regrouper, à suivre plus ou moins les mêmes chemins. Si bien qu'une nationalité donnée aura tendance à se poser, si je puis dire, quelque part, en France, dans une ville un peu spécifique. Et donc à Montpellier, on a effectivement des Africains, des Soudanais, des Érythréens, qui sont arrivés par voie de mer. On en a aussi qui sont arrivés depuis Calais, lorsque la jungle a été démantelée. Ils sont arrivés dans ce qu'on appelle des CAO, centres d'accueil et d'orientation, qui sont mis en place par l'État et gérés par des associations. Et puis on a aussi des gens qui arrivent un peu dans tous les sens. On peut avoir des nationalités aussi variées et surprenantes que des Mongols, par exemple. Bon, on ne s'attend pas à ce que des gens fuient la Mongolie et arrivent à Montpellier. Et pourtant, c'est le cas. On a vu passer une famille mongole qui maintenant est dans un CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, en Lozère. Donc vous voyez, ça peut être extrêmement varié. Ceci dit, depuis un peu plus d'un an, la population qu'on voit arriver le plus à Montpellier, la nationalité la plus représentée, sont des Albanais. Voilà. Donc, vous voyez, on est loin, on n'est pas toujours dans le schéma auquel on s'attend, c'est-à-dire des gens venant de Syrie ou d'Irak, fuyant les zones de guerre. C'est pas exclusivement ça.
Donc, c'est intéressant, oui, que vous nous disiez ça. Et qu'est-ce qu'ils fuient, en fait, c'est par exemple les Albanais, puisque c'est une
Alors, c'est un peu difficile à savoir pour nous, associatifs, dans la mesure où on a rarement le temps d'aborder cette question avec eux. C'est une question personnelle, c'est une question très intime. Nous, on s'occupe beaucoup des démarches, de l'hébergement, des premiers...
Allez à l'urgence.
Voilà, de la première nécessité, puis ensuite de leur permettre de déposer leurs demandes dans les règles qui sont assez contraignantes. Et donc, on ne se permet pas personnellement de leur poser cette question. Donc, de temps en temps, on en discute de manière un petit peu informelle, mais je ne peux pas dire que j'ai un panorama complet de la question. Ce sont les officiers de l'OFPRA qui regardent la demande d'asile et qui l'accordent ou non, qui eux connaissent bien le récit de vie de chaque réfugié, puisque c'est sur ce récit de vie que la demande d'asile se base. Nous, ce qu'on peut dire, par exemple, dans le cas de l'Albanie est assez un peu particulier. L'Albanie, c'est en Europe, c'est dans les Balkans. C'est un pays qui aimerait bien entrer dans l'Europe, mais n'a pas du tout les reins financièrement assez solides, donc il va suivre un processus d'intégration comme d'autres pays. Mais en attendant, les Albanais peuvent venir dans l'espace Schengen sans visa. Il leur suffit d'avoir un passeport biométrique. Partant de là, vu l'état du pays, la récurrence de la corruption, des problèmes de violence endémiques qui remontent à la période de la guerre de l'ex-Yougoslavie, des tas de choses qui n'ont pas été réglées, l'islamisme radical qui s'y est pas mal implanté, et puis certaines habitudes locales de vendetta font qu'on voit arriver beaucoup, beaucoup de monde. Alors dans ce monde, il y a des réfugiés qui vraiment ont eu de gros problèmes et doivent fuir leur pays. Je pense en particulier, par exemple, à un policier qui avait pris une balle dans la tête. Donc bon, évidemment, il fallait qu'il fuit, il ne pouvait plus être protégé dans son propre pays. Ou un militaire aussi qui était dans l'armée albanaise, qui était allé en Afghanistan, et les journaux ont eu la bonne idée de mettre sa photo dans le journal, si bien qu'il était la cible des islamistes locaux, donc il a dû fuir avec toute sa famille. Voilà quelques histoires que je connais comme ça, mais il y en a plein d'autres. Et puis dans le lot, bon, on voit aussi clairement des jeunes qui sont un peu touristes, c'est-à-dire que avec un peu l'inconscience de la jeunesse, ils font un peu les aventuriers, ils viennent en France, ils demandent l'asile, et puis voilà. Bon.
Des jeunes adultes qui veulent changer d'un peu leur vie, alors
c'est ça,
peut-être aussi.
Ce qui amène les gens ici, les gens croient toujours qu'on fuit son pays pour avoir des allocations ou pour des raisons strictement économiques. Les gens qui se déplacent pour des raisons économiques, ils vont pas dans un pays où il y a 10% de chômage. Ils vont plutôt en Allemagne, c'est pour ça qu'il y en a autant qui essaient d'aller en Grande-Bretagne. La France n'attire pas pour des raisons économiques, sauf temporairement pour travailler quelque temps sur des chantiers puis rentrer dans son pays, ou pour travailler dans les champs l'été pour les cueillettes, ce genre de choses. Les gens, s'il y avait un point commun, un dénominateur commun à toutes ces migrations, ce que les gens viennent chercher en Europe, c'est l'état de droit. C'est-à-dire que il n'y a pas trop de corruption, on n'est pas obligé de donner un dessous de table pour se faire opérer, ou pour avoir une place à l'école pour ses enfants. Si on a des soucis, on peut aller à la police, on a une justice qui fonctionne correctement, c'est pareil, il n'y a pas trop de dessous de table et puis d'histoire ethnique ou autre. Ensuite, les raisons sont aussi variées que sont les pays d'origine, en réalité. Le point commun, à mon avis, c'est ça, c'est l'état de droit.
D'accord. Oui, c'est intéressant ça, oui. Finalement, on est dans un pays, on ne s'en rend pas compte, on a des...
Ben non, parce que nous, on est habitués, voilà. On est habitués à ça. Donc, on voit des gens demander l'asile en venant de Russie, par exemple.
Oui.
On voit des et pas des gens qui soient forcément spécifiquement persécutés pour eux-mêmes, mais qui se disent, moi, j'ai pas envie d'élever mes enfants dans un pays où on risque... la détention pour ci ou ça, les choses arbitraires, voilà, etc. Les gens veulent un état de droit parce que c'est un état sécurisant pour élever sa famille, tout simplement, quel que soit le pays du monde.
Oui, mais malgré tout, c'est quand même une épreuve de changer comme ça de pays, de s'adapter. Comment se font-ils pour s'adapter? Il doit y avoir des difficultés quand même.
Alors nous, on les voit au moment le plus critique. Oui. De leur démarche. Enfin, pas le plus critique pour ceux qui ont pris la mer et qui ont risqué leur vie en mer ou à l'arrière des camions. Mais c'est certain que, imaginez-vous arriver dans un pays où vous ne comprenez pas la langue, ou parfois vous ne pouvez même pas lire les panneaux parce que ce n'est pas le même alphabet que le vôtre. Vous êtes là avec votre famille, avec vos enfants. En général, vous vous êtes fait quand même bien dépouiller par des passeurs qui vous ont bien étrié financièrement, donc avec très peu de moyens, et puis sans savoir très bien ce qui va se passer le lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, les procédures administratives auxquelles ils sont soumis en arrivant en France sont pas très faciles à comprendre.
Il y a beaucoup de contraintes administratives,
oui,
je suppose, des rendez-vous à prendre, c'est ça, par exemple ?
Alors, la première chose que les gens font, d'abord, il faut savoir que pour demander l'asile, il faut être dans le pays.
Oui.
Donc, une fois qu'on a demandé l'asile, on n'est plus en situation irrégulière. Donc, il faut déjà couper court à cette rumeur que des gens sont des clandestins.
D'accord.
Ils sont effectivement entrés dans l'espace Schengen, parfois de manière clandestine, mais pas toujours, parfois avec un visa. Et ensuite, ils demandent l'asile. Ils ne sont pas du tout en situation irrégulière. Ils ont un récépissé. Quand ils sont contrôlés par la police, ils n'ont pas de problème particulier. Donc la première chose que les demandeurs d'asile font, c'est s'inscrire à un PADA. PADA, ça veut dire point d'accueil demandeur d'asile. Donc c'est le premier rendez-vous administratif qu'ils ont, c'est simplement se présenter.
À la préfecture,
je sais pas. Non, c'est justement une association qui s'en occupe, à Montpellier, dans la région Languedoc-Roussillon. C'est notre association GAM qui s'occupe de ça. Et donc, bon, par exemple, en 2016, on a vu passer quelque chose comme 1300 situations. Situation, ça peut être une personne seule ou une famille.
C'est énorme, oui.
Ça vous donne une idée, 1300 situations sur la région entière pour un an. Oui, c'est quand même assez... c'est pas négligeable. Bon, on n'en est pas à ce qui s'était passé suite à la guerre civile espagnole, lorsque les républicains avaient franchi les Pyrénées et étaient arrivés sur les plages d'Argelès. On est loin des chiffres qu'on avait alors. Mais c'est un afflux qui est régulier et qui, voilà, qui est un petit peu compliqué à gérer pour les autorités, comme vous avez pu le remarquer par ce qu'en rapporte la presse. Donc quand les gens arrivent et s'inscrivent auprès du PADA, du premier accueil, ils ont ensuite un rendez-vous en préfecture dans les 3 jours, en principe. Ça peut être nettement plus long quand il y a un gros afflux ou que les services administratifs sont pas trop bien organisés. Et ensuite, de quoi sera décidée la procédure qui leur est appliquée.
D'accord.
Parce qu'il y a plusieurs situations. Par exemple, si des gens sont déjà venus et ont déjà demandé l'asile, sont repartis dans leur pays et reviennent, ça arrive.
Ils ont déjà un dossier.
Voilà,
c'est ça.
C'est un réexamen, il faut des nouveaux éléments. Donc ça, c'est un cas particulier. Il y a certains pays qu'on considère comme sûrs, c'est-à-dire où a priori il n'y a pas de problème de guerre ou autre, et l'Albanie fait partie de ces pays considérés comme sûrs, où la procédure est accélérée, en fait. Voilà. Et puis, dans un certain nombre de cas aussi, la procédure est refusée en ce sens que l'État français considère que le pays responsable de regarder la demande d'asile de l'intéressé n'est pas la France, mais un autre pays qui est, la plupart du temps, le premier pays de l'espace Schengen dans lequel
ils sont entrés,
ou en tout cas qu'ils ont déposé leurs empreintes digitales, où ils sont entrés, où ils ont été enregistrés quelque part.
Ah, oui.
Ça, c'est le règlement Dublin, qui pose plein de difficultés, parce que ça consiste, à peine les gens arrivés quelque part, à les renvoyer ailleurs. Donc c'est-à-dire qu'ils croyaient leur voyage fini, et ils doivent retourner ailleurs. Et là, ça peut être très difficile. Je pense je prendrai l'exemple d'une famille albanaise qu'on a hébergée un peu en urgence. Les pauvres, ils avaient mis plusieurs mois à arriver de l'Afghanistan jusqu'en France. Quelque chose comme 4 ou 5 mois.
Oui.
En cours de route, le père des enfants a disparu. On ne sait pas où il est. Bon, c'est
terrible,
très mauvais signe, hein, parce que ça s'est produit à la frontière entre l'Iran et la Turquie. En général, c'est pas bon signe du tout. Et donc, ces gens arrivent à Montpellier, et dans un état épuisé, le grand-père avait fait un AVC pendant le voyage. Enfin, c'était vraiment... Voilà. Et à la préfecture, on leur dit, écoutez, il faut que vous retourniez en Allemagne. Parce que vous êtes passé par l'Allemagne, vous avez posé vos empreintes digitales.
Tout seul, sans aide ?
Non, on leur paye le voyage.
D'accord.
Mais du coup, voilà, c'est vraiment très difficile pour ces gens. On leur dit ça au bout de quand même 10 ou 15 jours, où ils sont déjà là, où ils ont commencé un petit peu à se poser et à se projeter.
Oui.
Et là, il faut qu'ils repartent. Donc ça, c'est une sorte de péréquation pour équilibrer les migrants en Europe. Mais d'un autre côté, quand on voit le critère, ça ne peut que ne pas fonctionner. À ce rythme-là, tous les migrants se retrouvent en Italie,
oui.
En Grèce, en Pologne pour tous ceux qui viennent d'Ukraine, enfin sur les marges, sur les régions frontalières de l'Europe. Donc évidemment, ce règlement est en rediscussion, parce qu'on s'est bien rendu compte que ça ne
oui,
fonctionnait
oui.
pas.
Il faut bien une solidarité inter-européenne.
Voilà. Donc ouais, ça, c'est des choses qui sont en cours de rediscussion.
D'accord.
Mais ça prend un temps fou, parce que ça passe par les différents pays, par le Parlement européen, par la Commission. Et tout ça est très long par rapport au temps caractéristique de la migration, où les gens ils ont besoin de réponses et de quelque chose qui fonctionne dans la semaine, pas dans l'année.
Et en fait, ils attendent plusieurs mois, plusieurs...
Alors c'est très variable.
C'est variable, j'imagine.
Ça dépend beaucoup des places disponibles. Parce que faut considérer ça comme un flux. Il y a des gens qui arrivent, qui demandent l'asile et qui, à la fin de la procédure, l'obtiennent ou ne l'obtiennent pas.
Ils s'en vont.
Mais dans tous les cas, ils sortent du dispositif. Ils sont plus demandeurs d'asile, donc ils sont plus hébergés, donc ils n'ont plus d'allocation. Voilà. Donc oui, pour reprendre la procédure, tous ceux qui ne sont pas placés en procédure Dublin, donc qu'on veut renvoyer dans un autre pays ou en procédure particulière. Ils bénéficient de ce qu'on appelle les conditions matérielles d'accueil, c'est le terme administratif, et qui implique un hébergement, d'une part, et d'autre part, une petite allocation. Si on ne peut pas leur proposer d'hébergement, ce qui arrive assez souvent, en particulier aux hommes seuls, l'allocation est un petit peu augmentée.
Ceci dit, okay.
ça va pas bien loin. On parle de quelques centaines d'euros, on n'arrive jamais au montant du RSA, par exemple. On est toujours très nettement en dessous. Donc l'État français, se rendant bien compte qu'on a quand même un afflux qui, s'il n'est pas massif, comme on l'a vu par exemple en Allemagne ou en Italie, il est quand même sensiblement augmenté. Donc l'État essaie de créer des places de CADA, et donc GAM, notre association, a ouvert un CADA, Centre d'accueil des demandeurs d'asile, à Montpellier, derrière Mermoz, à côté du lycée Mermoz. En septembre dernier.
Ouais, c'est tout récent.
C'est tout récent, il y a 90 places, elles sont toutes prises, elles sont toutes occupées, elles ont été occupées assez rapidement, et là on va en ouvrir 30 de plus. Il faut faire des travaux dans le bâtiment, bon, c'est un petit peu long, mais voilà, on essaye de faire face à la demande, mais évidemment ça dépend des budgets de l'État. GAM est, pour ce genre de choses, comme je l'ai dit, opérateur des politiques publiques, c'est-à-dire que la puissance publique, l'État, finance des associations comme la nôtre pour mettre en œuvre leur politique, en l'occurrence d'hébergement. La PADA, le PADA, le point d'accueil, c'est pareil, c'est sur subvention de l'État. Nous, associations, avec cette subvention, on recrute des travailleurs sociaux, et on s'articule avec les services de l'État pour que le système fonctionne au mieux. On gère aussi des dispositifs d'urgence, parce que le temps qui passe en préfecture, le temps qu'ils aient une place en CADA, parce que c'est tout un système national, on a quelques subsides aussi pour payer des chambres d'hôtel, payer les mettre dans des appartements, etc., qu'ils ne soient pas dehors. Et malgré ça, on a toujours des gens dehors, plus ou moins. Là, si vous allez rue Louise Guiraud, derrière le cours Gambetta, donc devant le PADA, vous verrez des gens qui dorment dehors avec femmes et enfants, des femmes enceintes, des bébés, etc. On a réussi à éviter ça pendant des mois. Et là, ça fait un bon mois, deux mois, pas loin de deux mois, qu'on revoit à nouveau des familles dormir dehors sans qu'on puisse leur proposer... de solutions, parce que le 115 est saturé.
Vous avez des partenaires, non?
Aucun, oui, les dispositifs d'État sont saturés, et les hébergements solidaires chez les particuliers, à ce stade-là, ne fonctionnent plus, parce que on voit des gens qui, par exemple, logent dans un squat rue Saint-Barthélemy. On ne peut pas prendre des familles qui sont passer dans ce squat et les mettre chez des particuliers, parce qu'il y a une chance sur trois pour qu'on transporte la gale. Parce qu'il y a des situations, des conditions d'hébergement qui sont indignes. Donc ça relève d'un travail professionnel. C'est pas des particuliers qui peuvent apporter leur aide là-dessus. Voilà. Donc,
et d'autres associations sont... Est-ce que vous êtes la seule association dans Montpellier qui s'occupe d'hébergement comme ça? Parce que
alors de
ça semble...
Non, il y a d'autres, il y a d'autres associations, mais toujours, oui. Toujours sur fonds publics.
Oui, mais vous êtes en lien avec eux en permanence, je suppose.
Oui, tout à fait. Oui. Ben, par exemple, typiquement le 115.
Pour résoudre des problèmes urgents. Vous êtes toujours dans l'urgence un peu.
Les travailleurs sociaux du PADA sont dans l'urgence pratiquement un jour sur deux. C'est très fréquent qu'à la fermeture du bureau le soir, on se retrouve avec une, voire plusieurs familles sans solution d'hébergement. Donc, pendant longtemps, on a jonglé avec des presbytères qu'on nous avait mis à disposition, etc. Mais voilà, tout ça, c'est plein.
Et des traducteurs, il y a aussi des traducteurs. Alors, parce que comment peuvent-ils comprendre ?
Alors, les traducteurs, il y a deux choses. D'une part, il y a des traducteurs professionnels. Par exemple, le récit de vie qui explique pour quelles raisons ils demandent l'asile à la France. C'est ce récit qui va être essentiel devant l'officier de protection de l'OFPRA. Ce récit, il est fourni dans la langue d'origine, et c'est la France qui paye la traduction, si je puis dire, par un interprète officiel, assermenté, etc. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est des traducteurs pour les démarches, par exemple en préfecture ou dans les bureaux, pour traduire comme ça. Là, c'est souvent des traducteurs professionnels qu'on sollicite par téléphone et qui facturent ensuite à l'association leur prestation. Et enfin, pour toutes les démarches autres, par exemple aller chez l'avocat, aller chez le médecin, etc., bon, là, les gens se débrouillent par eux-mêmes. Ils connaissent quelqu'un qui parle les deux langues sur Montpellier assez rapidement, grâce aux associations d'aide aux migrants, comme la CIMAD, par exemple.
D'accord, oui. Donc, ce sont vos partenaires. Et finalement, ces gens qui sont hébergés, est-ce qu'ils font des activités? Qu'est-ce qu'ils font dans la journée?
Alors, en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est vrai que le fait d'être là, d'attendre une décision de la France, qui sera peut-être négative avec tout ce que ça implique pour eux d'incertitude, couplé à l'oisiveté, c'est pas bon pour le moral. Donc, les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler, n'ont pas le droit d'être salariés ou de créer eux-mêmes une entreprise. Et donc, c'est vrai que l'oisiveté est un souci. Donc, dans les CADA, il y a pas mal d'activités qui sont organisées, d'une part par les professionnels et salariés des CADA, et d'autre part par des bénévoles qui viennent y intervenir. Il y a des cours de français, bien sûr, français langue étrangère. Les enfants vont à l'école, donc ça, c'est aussi une petite occupation quand même d'aller chercher les enfants à l'école, de les amener le matin, du coup rencontrer les parents d'élèves, etc. Ça occupe un peu et ça permet de sociabiliser les gens dans la société française. Et puis ensuite, il y a des activités sportives, il y a des sorties pour connaître un peu la ville, le pays. Il y a aussi un petit peu d'activités organisées de manière à permettre aux gens de vivre avec des moyens quand même assez réduits. Donc il y a, par exemple, au CADA qu'on a installé, il y a un atelier vélo. C'est-à-dire qu'on récupère des carcasses de vélos, des morceaux de vélos, et avec ça, on en fabrique, avec trois, on en fabrique un ou deux, de manière à ce que les gens puissent circuler, parce que jusque récemment, ils n'avaient que difficilement accès aux trams, qui étaient très chers. Et là, maintenant, la TAM a accepté d'allouer le tarif social. Et donc, ils vont pouvoir avoir une carte de transport pour un peu moins cher, ce qui leur permettra quand même de circuler.
Ben merci. Écoutez, on va faire peut-être, on va avoir le petit intermède musical, mais après, nous parlerons avec vous encore de notre responsabilité, peut-être, nous, en tant que Français. Est-ce qu'on se sent quand même, quand vous nous racontez tout tout ça, on se sent concerné. Parce que nous, de l'extérieur, ceux qui ne connaissent pas, on ne se rend pas compte. Et vraiment, votre témoignage est extrêmement intéressant.
You know it did. Yes, it did. Ooh, Lord, didn't it rain? Well, it rained 40 days and it rained 40 nights. Wasn't no land, no way in sight. God sent a raven to spread the news. Hoist his wings and away he flew to the east, to the west, to the north, to the south. All day, all night. Raining in the south, raining in the east, raining in the west. Ooh. Just listen, listen to that rain. Tell me, didn't it rain, children? Rain, oh my Lord, didn't it? You know it did. Yes, it did. What, Lord, didn't it rain?
Pour conclure, Daniel Alexandre, qui est venu donc nous présenter son témoignage extraordinaire sur l'accueil des migrants et l'hébergement, la responsabilité des Français dans tout ça. Vous voyez, dans un article du Monde du 4 juillet, il y a un échantillon de 1000 Français qui ont été interrogés pour un sondage et 65% des Français disent qu'il y a trop d'étrangers. Qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez ça? Est-ce que ça vous choque?
Non, ça ne me choque pas, c'est un fait. Les gens le disent, ils ont bien le droit de le penser, de l'exprimer. Je pense qu'on obtiendrait à peu près les mêmes résultats un peu partout en Europe, parce que c'est la plupart du temps, ce genre de choses est indépendant du nombre exact ou de la proportion précise d'étrangers. C'est plus un sentiment qu'une réalité que les gens observent. On a peur de l'étranger, c'est normal, on a peur de ce qu'on ignore.
On a peur quand on ne connaît pas, voilà.
Et ouais, je ne suis pas sûr que les Français interrogés en l'occurrence pensent réellement étranger en termes de papier, c'est-à-dire je suis français ou pas. Un Français qui serait d'origine étrangère, je pense que ces gens-là auraient tendance à le considérer comme étranger.
Tout à fait, oui.
Donc, c'est la perception qu'on en a est d'autant plus faussée qu'on est loin de ces dits étrangers. Quand on les voit de près, moi je connais je les vois quotidiennement, les réfugiés. A priori, moi, l'idée que je me fais, c'est que c'est des gens qui s'intégreraient sans trop de problèmes dans la société française, que ce soit au niveau culturel, linguistique, religieux. Je ne vois pas de difficultés majeures liées à leur origine. Alors effectivement, la France est en crise, la France n'a pas beaucoup de travail, la France n'a pas beaucoup de logements. Mmh. Je pense que le souci du partage, il est surtout là.
D'accord. Est-ce que vous avez un site où, si on a besoin de vous rejoindre pour proposer des aides, des services, voire un hébergement?
Alors, on est toujours à la recherche de bénévoles, essentiellement. Et vous pouvez me joindre à d.alexandre@games.org.
Ah, merci beaucoup et à bientôt.
À bientôt.